Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ce n'est pas une émission qui sera entièrement consacrée à la musique aujourd'hui, sauf que...
Par la bande, pas loin.
On va en parler quand même pas mal.
Oui.
Pas juste de ça?
Non.
Mais c'est que nos deux entrevues...
Oui, nos deux invités sont reliés à la musique.
À la musique.
Oui.
Bon.
On va recevoir, entre autres, Ghislaine Cormier.
OK.
Qui est de Kenishi Vinyl Press. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça?
Ben, c'est comme grosse question, là.
Ah, ça fait des disques vinyles.
Wow!
Des 33 tours, mon ami.
OK.
On va se parler de 33 tours.
On a l'impression que les 33 tours, c'est comme les années 70-80, mais aujourd'hui.
Oh, pas ça pantoute, mon cher ami.
Vous allez peut-être avoir des surprises.
Oui, des grosses surprises. Et surtout les gens qui se servent du vinyle maintenant.
OK.
Pour distribuer leur musique.
OK.
Ah, ouais, des petites surprises. Bon, l'intelligence artificielle, ça sert à bien des choses.
Oui, ça sert à bien des affaires.
Des bonnes puis des moins bonnes.
Oui, il y a des applications dont on se passerait, là, mettons,
ben,
là, mais...
c'est ça, oui. Mais
il y en a d'autres plus intéressantes.
Oui, pas mal plus. Et aujourd'hui, on va recevoir Denis Bouchard, qui est coordonnateur et professeur en technique média et communication numérique à la Cité collégiale à Ottawa. Il va venir nous parler d'un projet qu'ils ont sur l'intelligence artificielle qui va nous aider à trouver des chansons en français.
Ah! Oh, wow! OK! Oui, ça, c'est intéressant.
Hein, pas pire, hein?
La découvrabilité du contenu francophone en ligne.
On en a déjà parlé dans l'émission, d'ailleurs, Simon,
oui.
Comment c'était difficile.
Oui, on avait abordé ça avec la directrice générale de l'APFC, l'Alliance des producteurs francophones,
exact,
du Canada, qui, oui, eux autres sont dans le monde du cinéma documentaire,
oui,
et tout ça. Puis on s'était dit que c'est pas facile de trouver,
non,
du contenu francophone en ligne,
non,
qui baigne dans un océan anglophone,
oui,
entre autres choses. Et puis là, il y a des cadres réglementaires qui sont en train de se mettre en place pour que davantage de contenu francophone arrive dans les plateformes numériques, qu'on puisse, mm-hmm, le découvrir et tout ça, puis qu'eux autres, ils respectent leur quota, entre guillemets.
Oui.
Mais comment on va s'assurer que ça marche, tout ça?
Ben c'est ça.
Hein? Avec des affaires comme celle-là.
On est rendu là. L'intelligence artificielle, et vous allez voir, votre cerveau va exploser.
Non, pas vrai?
Ben, je te dis.
OK.
Ben, je te dis. Tu voulais saluer quelqu'un, toi, hein?
Oui, ben écoute, on a commencé l'émission sur les chapeaux de roue.
Ben,
on n'a même pas pris le temps de saluer les gens.
Ben oui.
On va saluer une personne en particulier.
OK.
Parmi toutes ces personnes-là, à,
oui,
Carmen.
Ah, OK.
Qui nous écoute via Nord-Ouest FM.
Ah, OK.
Dans le coin de Faller et,
oui,
tout ça.
C'est ça, oui.
Il y a Smoky River, il y a plein de places comme ça. Alors,
bonjour, Carmen.
Carmen qui nous écoute dans ce coin-là.
Merci de nous écouter.
Qui nous a passé le commentaire, soit dit en passant, dans la page Facebook de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
OK.
Puis elle a dit, j'aime bien cette émission-là, moi.
Ah, c'est vraiment gentil.
Alors, salutations.
Mais elle n'a pas dit qu'elle aimait les animateurs, par exemple.
Elle n'a pas parlé des animateurs.
Non, hein?
Elle a parlé de l'émission. Ben, moi, je dis que ça doit y avoir un parallèle là-dedans, mais, quelque chose, je ne sais pas.
Merci Carmen.
Ben, c'est très gentil, merci.
Oui, c'est très gentil.
Puis gênez-vous pas, vous autres aussi, là, en passant, là. Si vous ne nous trouvez pas bon, vous pouvez juste changer de poste.
C'est ça.
Mais si vous nous trouvez bon,
ben, vous pouvez
mentionner. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, entre autres, de
ben
contenir,
oui,
des infos, la page Facebook de l'ARC ou l'Alliance des radios communautaires du Canada,
mm-hmm,
puis nous écrire aussi notre adresse de courrier électronique.
Oui, qui est pcdi@radiorfa.com.
Tu sais, des fois, je dis ça
ben,
de même.
Des fois, ben, juste de même, là, en passant. Là,
comme ça,
mon. Juste une parenthèse.
Je suis capable de prendre la critique,
ouais,
quand
aussi.
C'est constructif.
Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas de trouble.
La destruction, ça vous...
Ouais, quand
vous
c'est,
ça pour
quand
vous
c'est, quand c'est pour varger sur quelqu'un, là,
okay,
juste pour varger, là, non. ça va me faire parler de mon sujet.
Oui, c'est vrai.
Oui. Toi et moi, on était sur l'ancienne plateforme qu'on appelait Twitter.
Je n'y suis plus.
Mais nous, non, on a comme délaissé la plateforme Twitter.
As-tu fermé ton compte?
Oui.
Ah, moi, j'ai carrément fermé le mien.
Moi, tout, j'ai fermé le mien. Depuis qu'un certain personnage a acheté la plateforme,
ouais.
N'est-ce pas? Et que c'est devenu un peu un free-for-all.
C'est devenu, je m'excuse pour ceux qui aiment Twitter ou X, là, c'est devenu X.com. Là. Tous les goûts sont dans la nature, mais moi,
Non, moi non plus. Là. C'est trop. C'est juste que les nouveaux utilisateurs de X
oui.
devront payer de petits frais pour publier sur la plateforme pendant une durée de 3 mois.
OK. Ah oui, pour vrai.
Oui. Monsieur Musk...
Oui.
Explique.
Elon Musk.
Oui, Elon Musk.
Ou Elon Musk, ouais, c'est ça. Okay.
Il dit que malheureusement, de petits frais pour les nouveaux utilisateurs qu'ils aient le droit finalement d'écrire, c'est la seule façon de lutter contre l'assaut incessant des bots.
Ah, OK.
Les comptes automatisés.
Oui, les robots, là, c'est ça.
Les robots, effectivement. Okay. Les intelligences artificielles et les fermes à trolls arrivent à passer facilement les tests de « êtes-vous un robot, là? »
Oui.
Le fameux test « êtes-vous un robot? »
Oui, c'est ben, ça, la case à cocher ou encore déceler les vélos là, dans l'image. Là.
C'est ça, à cette heure, les bots, ils n'ont aucun problème à traverser ça.
OK.
Alors, on a décidé de... Pendant les 3 premiers mois, on va devoir payer un petit frais. Mais c'est pas, je te dirais que ça sera pas une première. Parce que X a déjà mis en place en octobre une mesure qui est similaire en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, où les nouveaux usagers doivent payer respectivement 75 sous et 85 sous pour des services de base comme la publication de messages. Ceux qui refusent de débourser ces sommes-là n'ont accès qu'à la seule fonction lecture de la plateforme, c'est-à-dire regarder des vidéos, puis bon.
OK, parce que ça peut arriver que des gens s'abonnent à Twitter pour effectivement suivre l'actualité, des personnalités publiques, par exemple,
c'est ça,
des organisations.
Mais pas nécessairement vouloir faire...
Et j'en connais certaines personnes comme ça. Oui.
Il faut bien
rendre à César ce qui revient à César.
Ben oui.
C'est que Twitter, il y a de l'information pas mal là-dessus.
Il y a de l'information. Cette politique visait déjà à réduire les spams, là, les messages qui sont non sollicités, ainsi que la manipulation de la plateforme et l'activité des bots. Les bots de faux comptes diffusant sur X, ça, ils ont explosé.
C'est
incroyable parce que, bien entendu, il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis à la porte depuis la reprise de l'entreprise par une certaine personne. Et ce qui fait que, finalement, c'est un peu... le free-for-all qui se parle.
Es-tu prêt pour une petite vite, là? Tu sais, on a 4 minutes à peu près, là.
Une
petite nouvelle très, très courte, là. Écoute,
Vas-y, je t'écoute.
Elle est pas longue, là. Dans la catégorie... c'est quoi l'affaire? OK, c'est correct. Mais là, c'est parce que je m'en vais...
Oui, vas-y.
Dans la catégorie, on aura tout vu. Je dis pas que celle-là, ça va topper tout ce que vous avez vu et entendu, mais c'est quand même pas mal.
OK.
La très connue compagnie Heinz s'est associée à la non moins connue compagnie Mattel pour lancer, tenez-vous bien, une sauce barbecue...
Je vois pas le lien, là.
...qui va s'appeler la Classic Barbecue.
Barbecue,
ouais, absolument. C'est une sauce en édition limitée, et c'est bel et bien vrai, qui est à la fois rose et vegan.
Rose.
C'est spécial, une
sauce la
barbecue.
Sauce barbecue rose.
Rose. Comment est venue l'idée, d'après toi? C'est une bonne question.
Mais,
hein?
J'oserais penser que...
Tu penses que c'est un brainstorm à quelque part? Ils se sont assis,
oui,
ils ont
ben
dit
là,
comme
ils ont
on va
dit,
faire...
Il faut faire de quoi avec Barbie, là?
T'es un peu, là. Alors, c'est juste un sondage. Ils ont fait un... Oui, c'est parti de niaiserie de même. Ils ont fait un sondage sur les réseaux sociaux britanniques de Heinz l'an passé, en marge, effectivement, de la sortie du film, du célèbre film Barbie. Puis ils ont demandé, en joke demain, ils ont demandé aux fans, ils ont dit, est-ce que vous préféreriez avoir une sauce barbecue ou une sauce ketchup? Tu vois le jeu de mots?
Oui, barbecue ou un ketchup.
Ah ben. Puis là, les gens, ça a l'air, ils ont répondu. J'ai pas retrouvé le sondage. Je me tente pas de, nécessairement de me retaper tout ça, là, mais de refouiller dans.
Oui.
Mais l'engouement a été tel que la marque a dit, ben correct. T'sais, les gens ont l'air à être vraiment partis en folie avec ça. Alors, ils ont dit, on va lancer la sauce classique barbecue. Elle est rose, comme la couleur préférée de Barbie, s'entend. Et elle a été créée, on l'imagine, avec, le, comme je le disais, la collaboration de Mattel, parce que c'est évidemment eux autres qui ont la marque de commerce. Alors, il n'y a pas de casse-tête là-dedans. Là. Attendez-vous pas que ce soit... Ils n'ont pas sorti le gros mélangeur, puis ils n'ont pas commencé à brasser une grosse recette. C'est de la mayonnaise avec de la sauce barbecue, puis ils ont tout simplement rajouté du jus de betterave pour sa couleur rose fuchsia.
Okay.
Et il s'est certifié vegan. Ben, c'est comme... Ils ont dit, tant qu'à en faire mettre une couche,
on va mettre
une autre couche. Alors, hélas! Mais là, vous allez pleurer, là, les fans de Barbie, puis pas qu'à peu près. Enfin, ceux qui nous écoutent en français, toujours est-il, parce que, hélas, elle n'est vendue qu'en quantité très, très, ce que j'ai dit, très limitée. 5000 bouteilles ont été fabriquées, c'est pas beaucoup, là. Et en plus, elle n'est disponible qu'au Royaume-Uni et en Espagne, sur le site de Heinz. Puis, elle vient à peine d'être mise en ligne, en vente. Puis je suis allé voir sur le site, puis c'était sold out.
Déjà?
Ouais. Fait que c'est
mais
c'est pour dire que c'est vrai.
On va probablement faire des tests.
Tout probable que...
Et on veut peut-être l'amener ailleurs.
Ça peut arriver. Lancement qui survient, comme on l'a dit, non seulement en marge de ce long métrage qui a connu un succès foudroyant là, dans les salles de cinéma, au cinéma l'an dernier, mais ça coïncide aussi à... Ah, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a lancé ça. 65e anniversaire de Barbie cette année.
Elle a 65 ans.
65 ans. Elle est née le 9 mars 1959. C'est cette année-là, ce jour-là, 9 mars 1959, qu'on a commencé à vendre la célèbre Barbie.
Elle est bien conservée.
C'est bien conservé quand même, hein? Puis maintenant, là, il y en a dans toute une palette de métiers, de couleurs de cheveux, de couleurs de peau et tout ça. Oui. C'est rendu une Barbie vraiment, mais vraiment universelle, à tel point qu'elle a sa sauce maintenant.
Ben oui. Tu l'as aimé, le film?
Non. Tu sais, déjà, en partage, je ne suis pas amateur de cinéma.
Non.
Ça que c'est... Non, je n'ai pas... Mais ça, c'est un choix très personnel.
Oui, moi aussi.
Courte pause et dans un instant, nous allons parler de disque vinyle.
De disque vinyle, mon cher.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
C'est un fait assez exceptionnel depuis quelques années. On les croyait morts et enterrés, je vous dirais très honnêtement. On en a peut-être encore quelques-uns à la maison chez nous, mais c'est à peu près ça. Mais non, les vinyles remontent la pente et sont maintenant très populaires.
Et il y a plusieurs artistes qui hésitent pas à faire presser des disques vinyles de nos jours, qu'ils vendent, mon cher ami, en quantité industrielle. Les fans s'arrachent littéralement les vinyles. Et on parle de grands noms, là.
Ah oui, hein?
Oui, Madonna, Willie Nelson, Taylor Swift. Même au Canada, des artistes comme Blue Jeans Bleu, Radio, entre autres, font presser des disques vinyles.
Alors, qu'est-ce qui explique une telle vague d'amour pour les disques vinyles? Qui les achète? On va tout savoir ça. On va en discuter avec Ghislaine Cormier. Elle est chez Kaneshi Vinyl Press. C'est une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard. Ça a été créé en 2017 et elle est avec nous au bout du fil. Ghislaine Cormier, bonjour.
Allô, ça va bien?
Oui, ça va bien, Ghislaine, ça va bien. Vous autres aussi, les affaires, le vraisemblablement. Comment on peut expliquer que les disques en vinyle reviennent en force comme ça? On les pensait morts et enterrés il y a quelques années à peine, puis là, tout à coup, les gens s'arrachent les disques en vinyle. Comment on explique ça?
Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on fait en sorte que c'est un médium que les gens, ou les médias que les gens ont vraiment repris en main. Mais on peut se dire premièrement que les vinyles ne sont jamais vraiment partis. Tu mentionnais dans ton introduction là, que comme on en a peut-être encore quelques-uns des années 70 qui traînent encore, mais c'est un média qui vient jamais de désuet. Fait que tu peux avoir des disques des années 60-70 qui jouent encore sur ta table tournante. T'sais. Fait que à quelque part, c'est un média qui fait son temps, qui est capable de durer. Versus un média comme le CD où ce que le data ou l'information sur le CD à un moment donné va dégrader va devenir tellement désuet que tu pourras vraiment jouer ton média. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui parle en soi, que c'est un média de longue durée. Nous autres, on a commencé notre entreprise il y a presque, ça fait presque 10 ans déjà. Quand on voyait déjà la tournure du disque, on voyait que les gens cherchaient vraiment quelque chose de tangible, je pense. Il y a l'idée de, tu sais, il y a une pleine génération de jeunes qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un média physique. Et puis, fait que eux autres, tu sais, depuis le jeune âge, eux autres, écouter de la musique, c'était sur leur téléphone ou sur leur, sur leur ordi ou quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y avait jamais vraiment eu cet usage-là d'un média physique. Je pense que c'est ça qui manquait à un moment donné dans l'industrie de la musique. On voit des spectacles, mais tu sais, s'en aller chez eux puis downloader a pas le même effet que s'en aller puis arrêter à la table de marchandises, de merch, puis se ramasser un disque ou puis un t-shirt ou quelque chose comme ça pour avoir un souvenir. Il y a tout l'aspect, ça fait comme un aspect nostalgique pas mal. Fait que je pense que c'est une des grosses raisons, mais il y a beaucoup de facteurs dans tout ça.
Mais c'est quoi, au fond, Ghislaine, un vinyle?
Un vinyle.
Tu sais, quand on dit un disque vinyle, mais c'est quoi, au fond?
Oui, tu veux dire la matière?
Oui,
c'est
comme,
ça.
Comme telle, la matière comme telle, c'est du PVC. C'est le même type de plastique que dans nos tuyaux, dans nos cuisines. Des
ah oui?
Oui, c'est fait avec du plastique PVC qui est beaucoup plus, comment je dirais ça, qui est beaucoup plus... je ne veux pas dire de santé, mais c'est un petit peu moins chimique que d'autres plastiques. Dans les années 70, quand que moi j'ai fait mes recherches, puis je travaillais, puis que tu rencontres beaucoup de gens, puis tu rencontres beaucoup de manufacturiers à travers du travail que je fais. Puis ils disaient, tu sais, j'en ai rencontré des vieux de la vieille là, qui me disaient comme, ah, des années 70, là, ils mettaient toutes sortes d'affaires dedans. J'en ai entendu un qui disait, ah, tu sais, you know, no, what they put in there might have been lead. Tu sais, comme il y avait beaucoup, ils mettaient n'importe quoi pour faire durcir un plastique. Okay. Puis c'était pas nécessairement, je pense, aussi connaissant dans les plastiques et des choses comme ça. Fait que, à fur et à mesure que la fabrication a repris le dessus, on essaie toujours de trouver des plastiques et des matériaux qui sont bienfaisants, qui marchent bien aussi. Maintenant, tu vois toutes les couleurs de PVC imaginables. Tu vois des disques de toutes sortes de couleurs.
Ouais, c'est
ça. C'est ça qui est le fun avec ces plastiques-là aussi, c'est qu'on, tu sais, nous autres, on en fait des rouges opaques jusqu'à des roses transparents avec, tu sais, avec des marbrés, toutes sortes de couleurs et des swirls et des affaires. Il y a toutes sortes de, tu sais, le disque comme tel est aussi rendu que c'est aussi, un morceau de l'art de tout le package.
C'est ça.
Mais Ghislaine, au-delà d'un morceau de plastique, OK, on achète une galette en plastique avec de la musique dessus, ça, je veux bien croire, mais c'est un bel objet, là, je veux dire, un disque. Il y a plus que ça, il y a une pochette, il y a des paroles. Ouais. Je veux dire, quand on achète un disque, c'est pas juste d'acheter de la musique comme on le fait platement quand on achète un fichier numérique dans Internet, là.
Ouais, c'est ça. Puis je pense que un autre des facteurs qu'on mentionnait tantôt de la renaissance du vinyle à quelque part, c'est que l'aspect physique de tout ça, moi, j'ai vu beaucoup, durant la pandémie surtout, des collectionneurs. Ils sont revenus à faire la collection de disques en vinyle parce que c'est exactement comme tu dis, c'est une pièce d'or. Ils passent tellement de temps aussi. Comme là, les gens, je trouve, passent plus de temps avec le graphisme. C'est devenu un objet complet. Et puis, je pense que comme ça, a beaucoup d'étapes aussi rendues là. Fait que il y a la portion audio qu'on met sur vinyle, on met sur des plaques, puis là, nous autres, on crée plusieurs vinyles à différentes couleurs ou quoi que ce soit. Mais c'est comme tu dis, la pochette, les insertions. Moi, j'ai vu des autocollants, des posters, tu sais, toutes sortes d'affaires qu'ils mettent dedans ça. Fait que là, t'as comme un produit. Ton disque devient plus que juste un média physique de audio. Ça devient aussi une œuvre d'art, un morceau physique, un post, c'est comme je dis, comme il y a tout ça. Fait que là, t'es capable de aussi J'ai même vu certains disques, OK, ben, vous achetez le disque, ben, vous avez un t-shirt puis une casquette avec, on vous envoie tout ça de la boîte. Tu sais, comme ça donne un produit. Puis je pense que la chose, moi, j'ai toujours travaillé dans ma petite vie au support et à l'appui des artistes. Puis donner un produit complet à l'artiste à être capable de vendre à son fanbase et à son public. Quand on stream une chanson à 0.0001 cent, l'artiste fait pas beaucoup d'argent à la fin du compte. Fait que je pense que comme des médias physiques comme ça, ça lui donne un produit à être capable de vendre avec le spectacle, avec c'est un atout. Puis je pense que c'est comme on disait tantôt, les gens sont collectionneurs, sont rendus fous de tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir l'ampleur que ça a pris dans les dernières années.
Mais je me souviens plus jeune, là, je vais pas dire les années, là, mais mais tu sais, on achetait des disques vinyles pour la souvent pour la pochette, parce que c'était un tableau dans le fond. Tu sais, il y a un artiste qui avait passé du temps là-dessus, là.
Ouais, puis il y en a beaucoup de mêmes, comme tu viens de mentionner, comme Bleu Jeans Bleu. on a travaillé avec puis si tu regardes les pochettes de Bleu Jeans Bleu, ils sont fabuleux. Il y en a un, deux autres, c'est comme un chihuahua, blabla papa. C'est tellement un beau morceau d'or, tandis qu'il y en a d'autres que c'est des macaronis, tu sais, au fromage. Fait que, tu sais, il y a un peu de tout dans tout ça. Puis je me rappelle de voir les quatre pochettes de Blue Jeans Blue, une à côté de l'autre, puis je disais, oh my God, ça serait un poster incroyable de faire les quatre pochettes ensemble, parce que il était tellement des grosses couleurs vibrantes. Et puis les gens adorent. Puis comme tu dis, les disques sont aussi de couleurs de ce temps-là aussi. Il y a plein de morceaux qui fait ça, que c'est des éléments de collection en ça. Je pense que pour revenir un peu, la pandémie a je pense allumé quelque chose dans les gens que moi j'ai jamais vu. Comme nous autres, ça fait, comme je disais, comme ça fait 7-8 ans qu'on travaille dans tout ça, ou même plus un petit peu. Puis j'ai jamais vu autant de uptake que durant la pandémie. Durant la pandémie, je pense que les gens... Tu sais, le disque en vinyle, c'est un média pour la maison.
Okay.
On ne cachera pas qu'on va pas amener ça dans la voiture. Là.
Ben non, mais c'est ça.
C'est pas quelque chose qui joue bien dans la voiture. Là. Fait que durant la pandémie, c'est un média parfait pour comme les gens ont comme sorti leur vieille table tournante, puis ils ont commencé à acheter des disques en ligne, puis parce que tout se faisait livrer à la maison durant la pandémie, tu sais, fait que... même des magasins de disques, des disquaires, là, des petits disquaires, ils faisaient comme la livraison à porte. Même ici, ça allait du Prince-Édouard. On avait un petit, là, que si tu voulais acheter des disques, que je voulais déposer à la maison. Puis je pense que comme ça a juste généré un engouement. T'es à la maison, tu fais souper, tu mets le disque. C'est 22 minutes par côté des disques. ça fait un bon temps d'écouter. Puis personnellement, moi, ce que j'adore à propos d'un disque en vinyle, c'est que les artistes passent tellement de temps à développer et de créer un disque comme tel complet. Puis avec le streaming, ce qu'on a permis au public de faire, c'est acheter une chanson.
Okay. Oui.
Une chanson d'un plein disque. Mm-hmm. Où ce que l'artiste s'est mis là, puis il a créé un environnement où qui voulait créer 12 chansons ou 10 chansons. Puis il voulait. Puis des fois, il y a même quelque chose de très pensé par rapport à la séquence des chansons et comment est-ce qu'ils veulent que son public écoute son spectacle sur disque. Puis je pense que c'est à travers de tout ça que... Ouais, c'est à travers de ça, je pense que comme on a perdu un peu l'habitude du disque. Ouais. Parce qu'on a juste une chanson en 99, même pas là, de ça. Mais on a juste une chanson du disque, mais on a juste le reste de l'album. Puis je trouve que on a perdu un peu ce...
Ghislaine, moi, je vois ça un petit peu comme, comment je dirais ça, comme un peu comme de la comfort food, là, si on veut, ou le slow cooking, là, tu sais, ça mijote et tout ça, puis on prend notre temps, puis tout ça. Mais ça me fait dire, et je veux pas faire mon casseau de party, mais est-ce que c'est une mode passagère ou est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans la durabilité, le vinyle?
Ben, ce que je viens de mentionner au début, c'est que, toi, t'as encore une petite collection des disques des années 70.
Oui.
Tu t'en débarrasseras jamais.
Non.
Tu veux les garder parce que c'est nostalgique pour toi, tu sais. Fait qu'à la fin de la journée, je pense que les gens vont garder peut-être une petite collection. Peut-être que Tu sais, moi, je connais des gens là, qui ont des 1000 disques, des collections de, des 1000 et des 1000 de disques de nos jours parce que c'est. Ils ont commencé il y a une dizaine d'années, puis ils ont embarqué dans tout ça. Puis peut-être qu'ils garderont pas tout ça, mais ta petite collection, tu vas toujours la garder. Tu sais. Fait que je pense que le disque, il a vraiment jamais disparu depuis les années 70. Il y a eu moins d'un engouement pour longtemps, mais il n'est jamais disparu. Fait que je pense pas que c'est un média qu'on peut vraiment faire disparaître à la fin de la journée. Le disque comme tel, le plastique, nous autres, on travaille beaucoup avec, on fait beaucoup de recyclage. On peut même recycler les anciens disques qui fonctionnent plus.
OK. Ah oui, OK.
Ouais. Fait que tout ça est dans, je pense, dans un momentum puis dans un monde de 360 dans toute la patente. On l'écoute puis une fois qu'il sera plus utilisable ou quoi que ce soit, qui arrive pas vraiment souvent parce qu'on peut, c'est comme j'ai dit, on peut les garder pour des, c'est 50 ans.
Ben oui.
On est capable de les recycler aussi. Fait que, il y a des atouts, je pense, au fait de, des albums de disques en vinyle versus un autre média que, tu sais, qui aboutit à être moins populaire à un moment donné.
Ben espérons, Ghislaine, que ça va durer longtemps parce que c'est un bel objet. Ça s'écoute bien. Un disque vinyle, c'est une autre expérience entre vous et moi que d'écouter des fichiers numériques sur, par exemple, un petit iPod ou des affaires de même. Là. Oui. C'est une autre game là, d'écouter des disques vinyles.
Le son,
entre autres choses. Ghislaine Cormier de chez Kaneshi Vinyl Press, une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard. Eux autres, ils pressent des vinyles, ça fait déjà plusieurs années. Ben, on va vous souhaiter une bonne continuité, puis espérons que ça n'a pas fini puis que ça va continuer encore.
Merci.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On apprenait récemment que le Centre d'expertise en prototypage intelligent du Collège La Cité, hein, c'est un grand nom quand même, avait complété un important projet pilote pour améliorer, écoutez ça, la traçabilité et la découvrabilité des œuvres musicales francophones.
Et Simon, on en a jasé il y a à peu près un an de ça à l'émission.
Oui, découvrabilité du cinéma, entre autres choses.
Exact. On sait que c'est difficile de retracer ou même de découvrir des œuvres musicales en français, surtout dans un océan de contenu anglophone. Mais l'outil sur lequel on travaille actuellement pourrait grandement changer la donne.
Oui, qu'est-ce que ça va changer justement pour le Canada créatif, entre autres choses? Sans doute aussi pour nous autres, par la bande, monsieur et madame tout le monde, qui écoutons de la musique dans l'univers numérique. Alors, pour en parler, on reçoit Denis Bouchard. Il est coordonnateur et professeur en technique média et communication numérique à la Cité. Il est là pour nous en parler de cet outil qu'on a développé. Monsieur Bouchard, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour François.
Bonjour.
Monsieur Bouchard, pourquoi on entraîne l'intelligence artificielle à tracer et découvrir les œuvres musicales francophones? Qu'est-ce qui justifie une telle initiative?
D'abord, si je peux me permettre, je vais faire un tout petit peu d'histoire très brièvement. Il y a à peu près 5 ans, il y a eu le rapport Yale qui a été demandé par le gouvernement fédéral, le ministre Guilbeault de l'époque. Et ce rapport a défini quels pourraient être les cadres d'un règlement voulant entourer les plateformes numériques offrant des contenus culturels aux Canadiens, entre autres. Et ensuite, il y a eu la volonté démocratique parce que le gouvernement canadien a approuvé le projet de loi C-11, c'est le Sénat, le Parlement, tout le monde s'est mis d'accord pour dire on avance et on a défini avec des termes réglementaires quel pourrait être ce cadre. Mais ce cadre parle de traçabilité et de découvrabilité, d'encouragement à la traçabilité et la découvrabilité des contenus canadiens, des contenus francophones, des contenus autochtones, etc. Alors donc, le défi auquel on fait face maintenant, c'est on peut peut-être voter toutes les lois qu'on désire dans la vie, là, mais la responsabilité du gouvernement, c'est pas juste de mettre en place des lois et des règlements, c'est aussi de s'assurer que ces lois et ces règlements-là soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils soient applicables, qu'ils soient mesurables en fonction des objectifs définis par la loi. Alors, à partir de ce moment-là, nos façons de mesurer ne fonctionnent plus. Parce que là, on entre dans un univers où, dans une journée, il peut y avoir facilement 38, 50 millions de flux numériques qui transportent de la musique un peu partout au Canada. Alors, ça prend le CRTC, je ne pense pas qu'il va engager 70 000 analystes pour faire des monitoring puis voir qu'est-ce qui se passe.
Ouais.
Alors, il faut développer des machines qui vont être en mesure de nous donner des informations précises sur l'état de la situation. qu'importe le cadre réglementaire. Si on décide de faire un cadre réglementaire qui encourage les plateformes numériques à donner des sommes considérables pour le développement du talent canadien ou du talent francophone, il va tout de même, en quelque sorte, un jour, devoir rendre des comptes. Alors, une mesure et une applicabilité démontrent l'efficacité d'une loi. Une mesure démontre aussi les résultats d'une loi et donc rend aussi les législateurs imputables. Voilà, c'est pour ça.
Vous avez travaillé avec qui dans ce projet-là? Qui sont les partenaires?
Il y a le collège, la Cité, bien entendu, le CEPI, le Centre de prototypage intelligent, avec les jeunes chercheurs. Là, on parle de gens au niveau maîtrise, au niveau du doctorat en intelligence artificielle, et particulièrement des spécialistes en ce qu'on appelle le natural language processing, ou les modèles de langage naturel. Et le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada a participé financièrement, et aussi Métamusique. Alors, ce qui est intéressant de notre projet, c'est qu'il y a une bonne participation fédérale, puis une bonne participation provinciale sur la question de la découvrabilité de la musique en français.
C'était quoi, au juste, ce projet pilote-là?
D'abord, il y a des modèles très, très puissants d'intelligence artificielle qui vont lire une langue, qui vont comprendre une langue, qui vont comprendre les mots, qui vont avoir un sens, qui sont en mesure de converser. ChatGPT, c'est le cas, par écrit, mais aussi, vous pouvez le faire de façon audio. Siri, qui était une des premières machines avec laquelle on avait l'occasion de jaser. Puis on se rendait compte, quand on jasait avec elle au début, que surtout en français, surtout au Canada français, elle avait beaucoup de difficultés à comprendre le français. Alors donc, ces jeunes chercheurs-là ont étudié les différents modèles pour rendre une machine efficace, pour converser, et donc aussi d'être en mesure de pouvoir reconnaître une langue. Mais une langue pas n'importe comment, une langue à l'intérieur d'une pièce musicale. Ça veut dire un mot, les paroles, un couplet, un verset, un refrain. Alors, puis là, il fait des combinaisons à travers tout ça. Il entend « la, la, la ». Est-ce que c'est un mot, ça, « la, la, la » ? Non, c'est une onomatopée. Est-ce que ça compte dans le règlement ? Non. Alors, non seulement il a fallu apprendre à la machine avec différents modèles à lire de la musique pour en détecter la langue, mais en plus d'appliquer le cadre réglementaire sur la musique vocale de langue française du CRTC. C'est-à-dire, quand tu fais « la, la, la », c'est une onomatopée, ça compte pas comme étant du français dans une pièce, dans le règlement actuel. La disque non plus ne compte pas comme ça. Alors, et par exemple, vous dites Marilyn Monroe, la machine doit savoir, ah, Marilyn Monroe, ça c'est un nom, c'est pas un mot, je peux pas le compter. Alors, et là, la machine, avec une assez grande exactitude, est en mesure de dire à 51%, comme le définit le règlement, si une pièce est francophone. 51% chantée en français, là, pour être très clair.
Okay.
Et l'exactitude de ça est à 93% pour la reconnaissance des paroles. Ça, c'est pour les mots écrits. Et pour l'audio, parce que le modèle a deux axes, il y a un axe qui reconnaît les mots, puis un axe qui utilise l'intelligence artificielle neuronale pour reconnaître le son, la parole, la trace audio du mot, avec l'accent. Là, c'est un accent franco-ontarien, c'est un accent du Nouveau-Brunswick, c'est un accent...
Ah, c'est vrai!
Et là, la machine, c'est acadien, pour que la machine reconnaisse le français à travers tout ça. À 86% pour la reconnaissance sur les pistes audio. Et en plus, imaginez-vous quand on passe ça dans du hip-hop,
oui,
du pop, du rock, du country pop. Ça aussi, c'est un autre niveau de difficulté. Alors, on est très heureux de dire qu'on a 93% d'exactitude pour la reconnaissance des mots quand on va étudier les paroles d'une chanson. Et quand on va étudier les pistes audio, on est à 86%. Le modèle va croiser les deux, lui, pour arriver à sa conclusion, pour être capable d'émettre à 88-89% l'exactitude que cette pièce est francophone en fonction des règlements qui existent au Canada.
Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour entraîner votre outil là, d'intelligence artificielle, puis c'est quoi les données qu'on lui a données pour que finalement il puisse reconnaître tout ça?
Ben, il y a beaucoup de données ouvertes qui comprennent des paroles puis de la musique. Alors, on est allé moissonner dans certaines bases de données ouvertes pour être capable d'entraîner la machine. Ensuite, on a demandé des permissions, on a discuté avec différents intervenants pour s'assurer que nos échantillons avec lesquels on entraînait la machine étaient très représentatifs. Quand je dis très représentatifs, ça veut dire différents niveaux de francophones dans les pièces, différents genres de musique dans les échantillons, différents accents francophones. Et on essaie de s'assurer que l'échantillon est le plus distinct et compliqué possible pour la machine. Notre rôle était de toujours réduire sa précision en essayant de compliquer l'échantillon avec des choses plus complexes. Alors, c'est un pilote, tout ça, parce que un pilote est quelque chose qu'on fait en laboratoire et qui démontre que le modèle est suffisamment robuste pour être capable maintenant d'en faire un test dans un univers réel. Alors là, l'univers réel, c'est donc d'attacher toutes les plateformes canadiennes qui distribuent de la musique.
OK.
Yangoo, vous avez des gars de radio, vous connaissez Yangoo, YMDS, qui distribue la musique. Bon, on a une entente avec eux pour avaler tout ce qui se passe, tout ce qui est distribué.
OK.
Ensuite, Amplitude, qui distribue la musique. Alors, etc. Donc là, en ce moment, on est en train de recruter tous ces distributeurs-là pour que la machine soit entraînée dans des flux de distribution naturels.
C'est impressionnant, le M. Bouchard. Convaincu que les gens, quand on a commencé l'entrevue tout à l'heure, ils disaient « ça va être stérile, on parle de politique réglementaire, ouais. On parle de loi et tout ça. » Puis là, on est en train de parler d'une machine qui est capable d'écouter de la musique comme vous et moi. On ne serait pas capable d'en écouter. Vous avez dit tantôt des millions et des millions de chansons qui sont jouées quotidiennement dans l'univers numérique. Et cette intelligence artificielle-là va être capable de reconnaître des accents, des langues et tout ça. C'est vraiment fascinant. Est-ce qu'on est capable là, de s'imaginer quel impact ça pourra avoir, un projet comme celui-là? À quoi ça va servir dans le milieu musical canadien, francophone?
Là, on parle quand même d'une décision qui dit à 88% c'est francophone dans moins d'un dixième de seconde.
Youch!
Avec tout ce que je viens de décrire. Alors, là, notre but maintenant, c'est qu'elle soit encore plus rapide. Et qu'on passe de 88 à 91 ou 92. Je pense pas qu'on va être capable de dépasser ça parce que il y a certaines choses qui ne sont pas toujours claires, même à l'intérieur du règlement, puis il y a des dictionnaires qui sont pas toujours accessibles, mais en tout cas. Alors, ceci étant dit, imaginez la chose suivante, d'accord? Vous savez que ces machines-là sont déjà utilisées par beaucoup de plateformes, par beaucoup de labels. Avez-vous déjà remarqué que vous recevez une pièce musicale et cette pièce musicale-là peut avoir un identifiant sur la pièce qui dit attention, ceci est un contrôle parental, puisque les paroles de cette pièce musicale sont en quelque sorte un peu osées et ne devraient pas être jouées à des enfants.
Oui.
Alors, il y a un contrôle parental. Alors, imaginez que c'est à peu près les mêmes technologies. Alors, donc, dans le fond, ce dont on rêve, c'est que le conseil, le CRTC, un jour peut-être, dans toute sa sagesse, dit « Ah, avec un outil comme ça, quand la machine est distribuée, on va pouvoir lui apposer un identifiant qui dit « approuvé » avec le seal qui dit, pareil comme quand vous allez acheter des aliments quelque part, puis qu'il vous confirme que ces aliments-là sont d'une bonne saveur et sont contrôlés. » Ben, c'est un peu le même principe-ci. Alors, donc, il y aurait cette metadata qu'on appelle, qui est, tu sais, les metadata, c'est comme vous avez un T-shirt sur le dos, là, puis quand vous avez une étiquette à l'intérieur du T-shirt, ça dit « Medium made in China », là.
Oui.
cette étiquette-là, maintenant, pourrait vous dire « francophone », qui est apposée sur la pièce musicale. Elle n'est pas visible, c'est ce qu'on appelle un fingerprint qui n'est pas visible, mais qui est un identifiant fort qui dit que cette pièce est une pièce francophone. Alors donc, l'algorithme, lui, il n'y aurait pas d'excuse pour aucune plateforme de dire « Ah, c'est très difficile de mettre un algorithme en place qui reconnaît la musique francophone. » Non, il existe déjà, il est là, et permet au gouvernement même de mesurer son efficacité à travers des millions et des millions de flux numériques pour être en mesure d'établir une réelle mesure aussi.
Wow! Dans combien de temps on pense que cet outil-là va devenir réalité puis va pouvoir être utilisé en situation réelle?
Alors, moi, j'anticipe que dans un an, la preuve de concept devrait être terminée et l'outil pourrait être fonctionnel. C'est ce qu'on se souhaite. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est évidemment là, d'avoir l'accès aux données, signer les ententes avec les plateformes de distribution, et etc., etc.
Ben, mon Dieu, un an, ça va quand même assez rapidement. Je sais pas combien de temps ça vous aura pris pour tout ficeler ça en tout et pour tout, là, du début de la conceptualisation, de l'idéation, on va dire, de ce projet-là, jusqu'au moment où ça va aboutir. Mais une chose est certaine, c'est que c'est fascinant. C'est le seul mot qui me vient en tête. Ouais. Absolument fascinant. Ouais. Merci, M. Bouchard.
À vous. Merci beaucoup, Simon et François. Et au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Je veux te préparer.
OK.
OK?
OK, oink, oui.
Oink, oink, oink.
Au royaume des animaux, là, quoi, là?
Ça? C'est un quiz sur les animaux.
Ah, un quiz sur les petites bêtes.
Ben oui.
La poule, j'allais dire la coque. Non, ça n'a pas rapport. C'est pas un coq, c'est une poule.
Oui.
Mais ce bruit-là, là, j'ai de la misère avec ça. Non, mais on parlait de poule. On parlait de poule dans notre dernière émission.
Oui. Les poules en ville.
Genre, je pense pas en avoir. Ben, ça a l'air que ça fait pas tellement de bruit, par exemple. Mais
non.
C'est pas...
Mais c'est
not my cup of tea.
Non, mais des œufs frais le matin, par contre.
Ah, ben non, ben c'est sûr, c'est clair. Ben oui, un bon œuf frais, là.
C'est un peu pour ça, moi.
Ouais, OK.
Bon, le quiz...
Sur les animaux.
Sur, oui, les animaux.
C'est-tu un vrai ou faux? As-tu un choix de réponse?
Oui, ou... t'as un choix de réponse.
Ah, OK.
Oui.
Okay.
Pas tellement difficile, en plus.
En plus?
Ouais. Quel animal vit dans une frayère? Le renard, le koala, le jarre ou le saumon?
Le saumon?
Bravo!
Merci.
Quel animal vit dans un clapier? L'hirondelle, le dindon, le lapin ou la souris?
Je dirais très probablement le lapin.
Bravo, mon cher Bug.
What's up, Doc?
Que mange le gorille? Des feuilles, des poissons, des petits mammifères ou des serpents?
Probablement des feuilles.
C'est des feuilles!
Mais je le croyais omnivore, le gorille. Ben, il est probablement plus... en tout cas, parmi ces choix-là, non, ça c'est
des
ça.
Feuilles.
C'est des feuilles, ouais.
Il n'est pas carnivore.
Non.
Combien une étoile de mer... a-t-elle généralement deux branches? Je dis bien généralement parce que ça peut varier. 4, 5, 8, 12.
Je dirais que ça doit être assez classique. Ça doit être comme une étoile normale, là, 5, celle qu'on est habitué de voir, 5 à 5 branches.
C'est pas mal ça, hein?
Ouais?
Oui, c'est pas mal.
C'est ça?
Oui, c'est pas mal.
OK, OK.
Pour quelle célèbre marque un lapin rose fait-il son apparition? Hertz? Décathlon, tu sais, les magasins de sport. Là.
Oui.
Duracell ou Energizer?
Je dirais Energizer, le lapin. Le
petit bonnie.
Ah oui.
Le petit bonnie.
Le lapin Energizer.
Qui tu dis un ichthyologiste? Ce serait plutôt un ichthyologiste.
OK.
Les mollusques, les bovins, les insectes ou les poissons?
Pas une racine de velours, là, mais une racine latine, quelque chose dans le genre là-dedans, j'imagine, à quelque part, mais je suis pas capable. Je vais dire les bovins.
C'est les poissons.
Ah, les poissons. Eh bien.
J'ai jamais fait le lien. Je voyais pas le lien entre ichthyologiste.
Ah, ouais.
Puis poisson.
Eh bien.
Tu sais, quand tu le regardes, c'est I-C-H-T-Y, itchy. Tu sais, en anglais, ça pique.
Oui,
absolument. J'essayais de voir, les insectes.
Mais sinon, c'est...
Mais c'est pas ça.
OK.
À quelle famille appartient le scorpion? Les arachnides, les gastéropodes, les mammifères ou les myriapodes?
J'allais dire à ma famille, parce que ma conjointe est une scorpion. Je dirais à la famille, les arachnides.
Oui, c'est en plein ça.
Même famille que les araignées.
Que les araignées, ouais. Effectivement, oui. Quel animal est un bonobo? Un lion? Un zèbre? Un phacochère? Ou un singe?
j'ai la réponse, mais j'ai juste une image d'une humoriste française qui fait justement un sketch là-dessus avec les bonobos. C'est un singe.
Oui.
Et comme sketch, là, c'est comme...
C'est un classique.
Ah, c'est un classique.
C'est un classique. C'est, tu sais, les singes, là, dans la planète des singes, là, quand on était plus jeune, là.
Oui.
Ben, ça ressemble un petit peu à ça, là.
Ah, OK. Oh, c'est oui. un peu ça. Ah, oui. Oh, bon.
Qu'est-ce qu'un chinchilla? Un chien? Un rongeur? Un singe ou un poisson?
C'est un petit rongeur.
C'est un petit rongeur, oui.
Ouais.
Avec une grande queue. À quel animal... À quel animal une gerbille se rapproche-t-elle le plus? Un rat, un chat, un serpent ou un poisson?
Je dirais probablement un rat.
Oui, c'est effectivement un rat. Quel animal est un fennec? Un lynx, un renard, une panthère ou un vautour?
Je dirais un renard.
C'est effectivement un renard, puisque il s'appelle aussi Renard des Sables.
Wow!
Ouais, il est comme blond, là.
Ben, j'avais déjà entendu, je savais. Beau, j'ai pas pris un guess parce que je savais que c'était un renard, mais j'ai.
Des grandes oreilles, là.
Wow! Hein?
Une petite tête puis des grandes oreilles.
OK, là, une petite tête puis des grandes oreilles.
Ouais, j'en ai connu une même aussi quand j'étais plus jeune. À quelle famille animale appartient le gnou? G-N-O-U, gnou.
OK, le gnou, hein? Ouais, vas-y.
Gnou.
Gnou.
Les ursidés, les porcins, les félins ou les bovidés?
Les bovidés.
C'est effectivement les bovidés.
Ah, mais c'est assez facile hein, comme quiz, là.
Oui, mais...
Oui, c'est ça, c'est le fun. En même temps, on apprend un peu de vocabulaire, tout ça. C'est correct.
Exactement, il y a des petites colles, là. De quel animal est proche le béluga? Un requin? Une baleine, un phoque ou une mouette?
Le béluga. C'est une baleine, ça, non?
Oui, c'est une baleine.
Mais oui.
Mais ils sont tellement cute.
C'est beau, des belugas.
Oui, c'est beau, des belugas. Qu'est-ce qu'un campagnol? Un insecte? Un oiseau? Un rongeur? Ou un félin?
Un petit rongeur, un campagnol.
C'est un petit rongeur, effectivement.
Petite souris de... pas de la prairie, mais comment je dirais ça, des champs. Là.
Bon, oui,
c'est ça.
Quel animal, comme dernière question, quel animal est proche du loris? Ah, ah!
OK.
Là, la question. Un castor, un chihuahua, un lémurien ou un loir?
Le loris, hein?
Oui.
Hey, t'es fini avec le coup de l'assommoir, là, parce que ça, là, ça, non, je suis pas capable. Là. Loris? Bon, je dirais un lémurien, peut-être.
C'est en plein ça,
ah,
mon
oui,
cher
hein?
ami, oui!
Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, un loris. Eh bien...
Hey, 14 sur 15, faut le faire, là.
Ouais, c'est un bon quiz, là.
Et comment s'appelait ton chat?
Idéfix. Idéfix.
OK, et c'était une femelle, hein?
Non, c'était un mâle. C'était un mâle, idée fixe. Mais j'avoue qu'il porte...
Ah oui, c'est
sur le coup, tu lui donnes un nom.
Oui.
Sur le coup, tu lui donnes un nom. Tu figures pas... C'est pas nécessairement parce qu'il y a tel nom que ça prédispose à certaines conditions mentales ou quoi que ce soit, mais il me semblait un peu qu'au fil du temps, il devenait un peu plus fixe dans ses idées, effectivement. Idée fixe, je trouvais que ça collait quand même pas si pire.
Non, mais tu sais que... Tu sais qu'il défixe.
Oui, c'est un chien.
Bon.
C'est ça. Ben, écoute.
Puis t'as nommé ton chat Idéfix.
Ouais, mais tu sais, nous autres, on aimait ça faire ça, faire de travers un peu sans aller sur d'autres chemins un peu plus tortueux. Je veux compléter, je vais le dire. C'est sorti. Je veux compléter cette émission avec une autre
oui.
petite brève.
D'accord.
Une petite vite, comme je disais tantôt. C'est quoi la meilleure façon, selon toi, de calmer une colère? La meilleure façon de calmer sa colère?
Aller prendre une marche.
Attention. Les chercheurs de... Et c'est très sérieux. Les chercheurs de l'Ohio State University ont épluché pas moins de 154 études portant sur plus de 10 000 participants, des études sur la colère, pour tenter de trouver quelles étaient les meilleures façons de calmer sa colère.
Uh-huh.
Et leurs conclusions sont assez simples.
Ah oui, hein?
Ils ont distingué principalement deux types d'activités, deux grands groupes d'activités, on va dire.
Okay.
Il y a d'abord celles qui diminuent l'activation physique et mentale, comme méditer, écouter de la musique relaxante, okay, pratiquer la respiration profonde, mm-hmm, et des activités qui augmentent l'activation, c'est-à-dire cogner sur un sac de boxe, ce qu'on appelle un punching bag,
okay, ouais,
faire du jogging, faire du vélo, aller marcher pour s'aérer, aller ventiler, là, comme
ouais,
on dit.
C'est ça.
Et quelle technique est la meilleure? Est-ce que c'est s'isoler, se calmer tranquillement, pas vite, ou exprimer sa colère et se défouler, selon toi?
Bien, là, je suis... T'en as nommé des bonnes, là.
Bien, ça fera peut-être pas plaisir aux gens qui ont un tempérament sanguin, comme on dit, mais les scientifiques conseillent de ne pas se défouler.
Non. Ah non, hein?
Non, ça n'apporte aucun bénéfice réel à la santé, d'une part, et dans bien des cas, ça va même apparemment empirer les affaires. Au fond, c'est quoi la colère? T'sais, la colère, c'est le rythme cardiaque puis la respiration qui s'accélère, c'est la pression artérielle qui augmente,
ouais,
c'est le sang qui afflue au cerveau.
Okay.
Bref, c'est de l'activité ou c'est de l'activation physique et mentale.
Ben oui.
Les chercheurs disent, c'est pas en allant prendre une marche ou en fessant sur un beanbag ou appelle ça comme tu voudras, que tu vas réussir à chasser le trop-plein d'émotions puis calmer ta colère. On suggère plutôt de faire quoi? Pratiquer des activités qui vont faire tomber l'activation, parce que non seulement ça va chasser la colère, mais en même temps, ça va même faire descendre votre agressivité. Donc, en bref, ils se sont aperçus que peu importe votre âge, votre sexe, votre origine ethnique, votre condition physique ou quoi que ce soit, faire quoi? Méditer, écouter de la musique tranquille, même juste faire un casse-tête à la rigueur,
ouais,
ça va être de loin préférable à une session de défoulement sur un punching bag. Tenez-vous le pour dit.
Mais c'est parce que nous autres, ils nous disaient souvent, tu sais, de se défouler, là, tu sais, finalement. Mais c'était simplement pour te changer les idées.
Ouais, mais...
Tu sais, t'enlever les idées de où ce que tu étais. Alors, tu sais, va marcher, va prendre une marche, mais tu pensais à d'autres choses, tu pensais plus à ton problème ou...
Ouais, mais tu sais, faire tomber la pression en faisant augmenter la pression...
Ouais, non, je
en allant, tu sais, c'est comme, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. En tout cas, ce sont les conclusions auxquelles les autres, ils s'en sont arrivés.
C'est des chercheurs de l'Ohio State, hein? Ohio State University.
University, ouais, absolument. Okay.
L'équipe de football, les Buckeyes, que j'aime vraiment pas.
OK.
Eux autres, là... Pas capable.
OK, ben,
pas
fait que.
Capable,
alors,
pas
il va
capable,
pas suivre, il non, va pas suivre non, les conseils non, de ces chercheurs universitaires.
Ça vient pas de la bonne université.
Ils sont pas de la bonne université.
Si c'était venu de l'Université du Michigan, là, j'aurais dit, okay, Simon, c'est.
C'est rigoureux.
C'est sûr que ça a été.
Tu sais, gars, il veut rien entendre.
On ramène tout au football.
Au football. C'est la conclusion de l'émission. On va se saluer là-dessus.
Oui, passez une excellente semaine, tout le monde.
Salut.